Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est de la plus haute importance, parce que c'est la loi et les prophètes. Romains 13, 8. Romains 13, 8. On arrive en fin d'année, période préparatoire aux vœux. Alors, janvier, on aura les vœux de tout le monde, surtout en période électorale. Mais on va se l'approprier aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? On va être égoïste un petit peu. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Mais le Seigneur dit d'avance, tout ce que vous voulez pour vous, faites-le d'abord pour les autres. Et c'est un principe spirituel. Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et du coup, avec ces deux passages, nous avons la loi et les prophètes, l'accomplissement de la loi. Vous voulez recevoir quelque chose. Alors le lien est facile en période de fin d'année, puisque c'est la période des cadeaux. Vous attendez à recevoir quelque chose de la part de quelqu'un. Mais pour recevoir de quelque chose, il faut que quelqu'un donne. Sinon, vous ne recevez rien. Vous allez donner un cadeau à quelqu'un, et de fait, il va le recevoir. Eh bien, c'est un principe biblique qui est là, mis en pratique sans qu'on le sache, parce que si on le disait dans la conjoncture actuelle, où déjà, je crois que c'est à Lyon, il y en a qui revendiquent contre la crèche au niveau de la mairie. Alors, si on se met à dire aux gens, chaque fois que vous faites un cadeau à quelqu'un, c'est un principe biblique, et ça ne va pas leur plaire. Néanmoins, c'est vrai. Il faut donner si on veut recevoir. C'est la base. Il faut donner si l'on veut recevoir. Si vous voulez recevoir un cadeau, préparez-vous aussi un cadeau à l'égard de quelqu'un, parce que ce serait tellement la honte que au moment où tout le monde va se donner les cadeaux, vous n'ayez rien à donner à personne. Ça va se voir. Ça va se savoir. Voilà. Alors, c'est un principe biblique. Et ce qu'il faut que nous fassions, nous, alors on ne va pas parler de cadeaux en paquet, bien évidemment, hein. Le plus beau des cadeaux, hormis le Seigneur, c'est pour l'épouse, son mari. C'est pour le mari, son épouse. Oui, ah là, vous avez. Le plus beau des cadeaux que vous êtes à même de faire à quelqu'un, c'est vous. C'est vous. Sachez-le, vous êtes un cadeau. Empaqueté ou pas empaqueté, avec le petit pompon, comme vous voulez, mais vous êtes un cadeau. Nous sommes des cadeaux. C'est tellement terrible d'entendre dire de quelqu'un, lui, c'est pas un cadeau. C'est vrai, nous sommes des cadeaux. Nous sommes capables de faire du bien tellement plus que tout ce qu'il peut y avoir dans n'importe quel paquet. Voilà. La façon que nous avons de regarder quelqu'un, c'est un cadeau. Nous lui donnons quelque chose. Alors, on va prendre des exemples concrets. Jésus rencontre la Samaritaine. Et on va considérer cette rencontre sous cet angle-là. Il va lui faire un beau cadeau dans sa vie, à cette Samaritaine. Il va savoir la regarder, comme peut-être personne jusqu'à présent ne l'avait regardée, et en tout cas pas dans le village où elle habitait, puisqu'on évitait de la croiser. Et il va savoir ensuite lui parler, l'écouter, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais il va savoir porter sur elle un regard qui est différent. Il va savoir regarder une personne à part entière, avec ses qualités, ses faiblesses, certainement, mais il va la regarder comme seul le Seigneur est capable de regarder quelqu'un. Et le regard du Seigneur, il vous permet de vous relever, même si vous êtes dans le fossé. Et c'est à elle qu'il va parler de l'adoration en esprit et en vérité. Quel cadeau! Alors nous, on se l'approprie. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parfois, on le trouve dans les églises. Mais quand on le remet dans le contexte, à qui le Seigneur s'est-il adressé quand il lui a parlé comme ça? À une personne à laquelle aucun homme et aucune femme, il faut être honnête, ne l'aurait dit. Mais lui, il le dit. Parce qu'il porte sur elle un autre regard. C'est pareil quand il va rentrer dans la maison de Zachée, il va le regarder différemment que comme tout le monde l'a regardé jusqu'à présent, le petit, parce qu'il est petit, c'est écrit, on le sait. Et puis le voleur, parce qu'il est chef des collecteurs d'impôts, et puis il a abusé de sa fonction. Mais le Seigneur porte un autre regard sur lui. Il vient et il ne lui parle pas de sa faute. C'est ça qui est extraordinaire. Savoir, parce qu'il le sait, voir ce qui ne va pas chez quelqu'un et rien lui dire. C'est un drôle d'exercice. Parce que nous, on a plutôt été habitués à être repris et à reprendre. Et savoir, voir chez quelqu'un ce qui ne va pas et ne rien lui dire, de prime abord. Mais savoir lui parler d'autre chose. Le salut aujourd'hui est entré dans cette maison. Et Zachée de lui-même, comme quoi, si nous faisons comme le Seigneur fait, nous allons être d'une efficacité incroyable. Incroyable. De lui-même, il dit, voilà. Il le sait, de lui-même, par l'action de l'Esprit de Dieu. Quand je disais que nous sommes le plus beau des cadeaux, en fait, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec l'Esprit de Dieu. Et parfois, nous oublions qu'il y a l'Esprit de Dieu avec nous, alors nous faisons un peu le travail tout seul, dans ce sens où nous prenons sa part. Sa part à lui, c'est de convaincre. Donc, ce n'est pas la nôtre. Sinon, on lui prend sa part. Sa part, c'est de convaincre, de péché, de justice et de jugement. Donc, ce n'est pas ma part. Ma part, c'est de parler des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit, en vérité. Mais vous rendez compte, à qui vous parlez de ça? Il y a tellement de choses à remettre en ordre dans sa vie. Oui, mais ça, c'est pas moi de le faire. C'est mon consolateur, cherchez le mot. C'est celui avec lequel je suis en communion. On est deux. L'Esprit de Dieu et moi. Et il a paru bon au Saint-Esprit et aux apôtres de ne pas vous imposer autre chose que. Voilà. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Nous serons un cadeau dans la mesure où nous serons avec l'Esprit de Dieu, faisant notre part et il fait la sienne. Voilà. Allez rencontrer quelqu'un. Sans lui dire forcément, je ne suis pas venu tout seul. Parce que quand vous et moi, on va rencontrer quelqu'un en lui disant, je ne suis pas venu tout seul, il regarde derrière, qui c'est qui est avec toi? Sauf que comme l'esprit, on ne le voit pas. Donc, ne partons pas dans une voie sans issue. Mais nous savons que nous ne sommes pas venus tout seuls. J'oserais même dire, quand nous rentrons quelque part, ça fait peut-être un petit peu curieux à le dire comme ça, néanmoins, à l'intérieur, c'est comme ça qu'on le pense, Seigneur, passe d'abord. On ne le dit pas, parce que les gens vont dire, mais qui vous parlez tout seul, vous? Seigneur, passe d'abord. Et par ton esprit, commence à agir et montre-moi. Et dis-moi. Voilà. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit que le sage a ses yeux à la tête. Comme la tête, ce n'est pas moi, c'est lui. Donc, mon regard doit être le sien. Sinon, je vais mal regarder les choses. Je dois être un cadeau en termes d'écoute. Le médecin écoute des pathologies toute la journée. Mais vous, quand vous arrivez à la fin de la journée, et il a écouté déjà depuis le matin de bonne heure, il faut que pour vous, il soit comme pour le premier patient de la journée. Il faut qu'il soit capable de vous écouter, de lire entre les lignes, parce que vous n'arrivez pas à lui dire vraiment ce qui ne va pas. Mais vous attendez que lui, il le trouve. À partir de ce que vous êtes capable de lui dire. Qu'est-ce que vous ressentez? Oh, je ne suis pas bien par ici. Je ne sais pas vous le dire, mais ça ne va pas. Écoutez, qu'est-ce que vous faites avec ça, vous? Il faut vraiment être fort, hein? pour dire c'est ça qui ne va pas. Mais ça dépend de la capacité d'écoute. Et surtout, d'avoir écouté tous ceux qui les ont enseignés. Parce qu'un médecin, il a passé des heures à écouter. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Passons du temps d'abord à écouter le Seigneur. On va être d'une acuité auditive particulière. Et après, quand bien même nous serions comme le père du fils prodigue, mon fils revient à la maison, je vais l'écouter. Alors que la plupart d'entre nous, on commencerait par lui dire, tu vas m'écouter. T'asseoir, j'ai quelque chose à te dire. Et pour le coup, c'est pas comme ça que ça passe, que ça se passe. Mais quand on voit le résultat final, on se dit, ah, en termes d'efficacité, si on devait regarder les choses sous cet angle, qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est ce qu'il a fait. Moi, je cherche l'efficacité. Apprends-moi et aide-moi, Seigneur, à faire comme lui. Et pourtant, ce n'est pas évident quand on est un père et qu'on voit son fils qui revient, après avoir tout dilapidé, dans un état, il revient de chez les pourceaux. Donc, vous imaginez l'état et l'odeur. Mon fils, il le laisse parler. Et quand lui se met à parler, alors ça va être une résurrection pour cet enfant. Il veut le bien de son enfant, il veut pardonner. Voilà. Et c'est ça qui est important. Ce matin, j'ai eu un coup de fil par rapport à ce week-end. Et je dis à la personne, je dis, vous savez, soit vous regardez tout à partir du passé et vous n'êtes pas sorti de la situation. Soit maintenant vous commencez à fixer un point, celui que vous voulez atteindre, vous et puis chacun. Vous voulez atteindre ce point-là, alors il faut parler dans cette perspective. Il faut prier dans cette perspective. Et puis il ne faut pas attendre que tout le monde soit parfait du jour au lendemain. Il faut aussi être capable de faire miséricorde, parce que si vous et moi, on est là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a toujours fait miséricorde. À petite dose, ou parfois à grande dose. Mais il a toujours fait miséricorde. Il ne nous a jamais parlé comme on méritait de l'entendre. Il faut être honnête. Il n'a jamais agi comme on méritait de recevoir ce que peut-être d'aucuns avaient envie de nous donner. Et c'est parce qu'il est comme ça que les choses ont changé. Du coup, on est toujours à contre-temps d'une réalité humaine, d'un ressenti humain. On est à contre-pied total. On est à contre-temps total par rapport à ce qu'on ressent. Seulement, l'efficacité, elle est là. Alors, on s'est trompé une fois, on s'est trompé deux fois. On va peut-être arriver à comprendre avant 10 fois que le Seigneur, c'est lui qui a raison dans la façon de faire. Il rencontre la Samaritaine, il rencontre Zachée. Il était avec Judas pendant 3 ans. Nous, on le sait à la fin. Mais lui, il le sait pendant la période. Écoutez, vous et moi, on fait un petit jeu, on déclenche le chronomètre, combien de temps on va tenir avant de lui dire quelque chose à celui-là? Moi, le premier. Vous êtes... on va transposer, hein? On va transposer. Vous êtes pasteur de l'église et vous... Maggie, ça n'a rien à voir avec vous. Hein? Vous êtes pasteur de l'église et vous savez que le trésorier prend à la caisse. De seul coup, je pense qu'elle est au fond, c'est pour ça. Comment vous réagissez? Ça ne m'est jamais arrivé. Grâce à Dieu que ça ne m'arrive jamais. Mais pour le coup, comment vous réagissez? Moi, je me dis, Seigneur, tu nous poses un problème, là. Parce que... On ne peut pas rester sans rien dire. Ça, d'accord. Mais on ne peut pas le descendre à la Kalachnikov non plus. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur a fait. Alors, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, parce que je n'ai jamais été... Je sais que ailleurs ça s'est produit et que quand on réagit comme le Seigneur réagit, malheureusement ou heureusement pour nous, c'est la personne. Soit elle se ressaisit, soit elle finit pire que jamais. Et malheureusement, c'est comme ça que ça s'était passé. Voilà. On connaît tous Jean 3,16. Alors je vais vous inviter à lire Jean 3,17. Parce que nous, on a une faculté à oublier le verset d'après. en général. Alors Jean 3, 17. Vous vous rappelez de Jean 3, 16? Alors qui est capable de dire Jean 3, 17? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On fait tout d'abord pour que la personne soit sauvée. Et si au final, elle ne fait rien pour l'être, alors elle va être jugée. Mais d'abord, on fait tout pour qu'elle soit sauvée. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire de tout faire, pensez à un de vos enfants. Parce que là, ça va vous prendre là, l'interprétation des Écritures, ça ne va pas vous prendre là, mais là. Et c'est là qu'il faut que ça prenne, en fait, l'interprétation des Écritures. Qu'est-ce que je serais capable de faire pour que mon fils, ma fille, qui est partie en live, on va dire ça comme ça, soit sauvée. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans sa vie, mais ce que je veux, c'est le salut de son âme. Le reste, on s'en occupera. On y arrivera. Tout seul, on n'y arrivera pas, mais avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Mais je veux le salut de son âme. Voilà. L'ami, il aime en tout temps. Voilà. Donc il s'est écouté de cette manière-là. Je vais parler, non pas pour dire la vérité à la Samaritaine et les quatre vérités. Alors du coup, peut-être que ce serait intéressant que le jour, parce que je ne le sais pas, quelqu'un puisse trouver l'explication de pourquoi les quatre vérités. Pourquoi pas trois, pourquoi pas cinq, je ne sais pas. Je vais dire les quatre vérités. Mère, pardon ?
Pour que ça tienne debout.
Ouais, pourquoi pas ? Franchement, j'ai aucune idée d'où vient l'expression. Mais quand vous commencez à quelqu'un par lui dire ces quatre vérités, après, expliquez-moi comment vous placez l'évangile. Dites-le-moi. Quand vous avez commencé par le descendre en flèche et le tailler en morceaux, et après vous avez lui parlé de l'amour du Seigneur, il ne peut pas. Il ne peut plus. Du coup, le Seigneur nous dit les quatre vérités, laissez-les-moi. Parce que moi, je parle en vérité, et vous allez lui parler de moi. Voilà. Et parler, c'est comme ça. Parler, c'est exhorter, c'est consoler, c'est faire du bien. Même l'Esprit de Dieu, quand il parle au travers d'un don spirituel, il exhorte, il console, et il édifie. Ben, quelque part, nous avons notre lettre de mission, là. Quand tu parles, mon enfant, pourrait dire le Père à chacun d'entre nous, j'attends de toi que tu exhortes, que tu consoles, que tu édifies. Oui, c'est ça. Il exhorte, il console et il édifie. Quand tu parles, exhorte, console et édifie. Oh, c'est formidable. Hein? Ça va faire du bien. Et puis, on va terminer. Le plus beau des cadeaux, c'est aussi de tendre la main. Et la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Tendre la main à quelqu'un. Merci Seigneur de l'avoir tendu à mon égard. D'avoir permis que quelqu'un vienne m'aider concrètement parlant. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de se salir. Parce que vous n'allez pas tendre la main à quelqu'un qui vit dans un palais rempli d'or. Vous allez tendre la main à quelqu'un qui est peut-être tombé, qui est blessé. Vous allez vous salir, ça c'est sûr. Et au terme, cette main, attention, soyez prévenus d'avance, elle peut être crucifiée. Parce que c'est comme ça que les hommes font. Et quand la main de Jésus est crucifiée, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Père, pardonne-leur. C'est un cadeau ça. C'est le plus beau des cadeaux. Alors que le Seigneur soit béni. Et soyons les uns et les autres. Alors n'en profitez pas pour dire, eh ben, je t'ai rien acheté, parce que le cadeau c'est moi. Soyons les uns et les autres des cadeaux pour tous ceux qui sont autour de nous. Et qu'ils puissent dire, comme quand on reçoit un cadeau, merci. Qu'ils puissent dire, ben, merci d'être venu vers moi. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir secouru. Bref, peu importe. Mais qu'il y ait ce merci qui atteste que vous avez donné quelque chose de la part du Seigneur. Gloire à toi.